Bienvenue dans Négatif, le podcast d'entretien à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je suis Thibaut Elie, étudiant en cinéma, et j'ai décidé de donner la parole à des personnes dont le travail artistique m'a marqué et dont je veux découvrir les coulisses. Toutes les deux semaines, je vais partir à la rencontre d'un nouveau métier dans le cinéma, la photographie, la musique ou l'art contemporain. Dans ce premier épisode, c'est le jeune cinéma français que nous allons explorer avec Jonathan Aigbourg. À seulement 31 ans, il a déjà participé à 10 longs métrages de fiction et plusieurs documentaires. Son rôle, directeur de la photographie. Nous avons discuté de ce que ce métier représente concrètement dans la fabrication d'un film, mais aussi de plein d'autres questions. Comment trouver sa voie et éviter le formatage en école de cinéma, l'importance d'une cinéphilie pour penser les images que l'on tourne, ou encore de ce que change le numérique dans la création et la diffusion des films d'aujourd'hui. Pour Jonathan, filmer, cadrer, éclairer un film, c'est avant tout un engagement. Alors bonjour Jonathan Aigbourg.
Bonjour.
Merci d'inaugurer ce podcast négatif qui va s'intéresser aux questions de création et qui va donner la parole et être à l'écoute de tous les créateurs d'images et de sons. Alors une première question, c'est quoi un chef opérateur ou un opérateur en général au cinéma?
Donc le chef opérateur ou le directeur de la photographie, c'est celui qui va accompagner le réalisateur à partir du scénario jusqu'à la post-production dans le but de lui proposer une image originale. C'est donc celui qui en fait détermine ce qui va être vu et ce qui va être caché. Alors ça peut être avec la lumière, donc qu'est-ce qu'on éclaire et qu'est-ce qu'on n'éclaire pas. Et au niveau des cadres, bien sûr, à travers la composition. Donc, c'est à la fois un maître d'œuvre d'un point de vue pragmatique et technique. Donc, comment réussir à mettre en place une forme de féerie ou une forme de plastique, et comment narrativement va s'incarner cette plasticité. C'est-à-dire, et là, d'un point de vue plutôt créatif. C'est-à-dire donc le découpage, des choix de couleurs, une palette, un contraste. Voilà, donc ça reste assez vaste et ça commence très très tôt, quoi, puisqu'en fait on se retrouve assez vite à être un des bras droits du metteur en scène dans la mise en œuvre du tournage dans un premier temps, et puis ensuite jusqu'à la post-production qui devient de plus en plus un travail très important pour le directeur de la photographie.
Donc en fait, on voit que tu es présent sur l'intégralité du film, à partir du scénario jusqu'à la post-production. Comment tu arrives à partir du scénario? Comment est-ce que tu choisis les réalisateurs avec lesquels tu travailles, ou comment eux te choisissent?
Alors pour la plupart des projets, donc le scénario existe déjà. Il y a quelques exceptions avec des metteurs en scène avec lesquels je travaille depuis quelques temps. Donc par exemple, Jean-Charles Hu, j'arrive même en amont du scénario, on filme des choses ensemble et ça va le nourrir pour l'écriture du scénario. Puis j'écoute en fait les différentes versions, voilà, je fais un peu sparring partner. Mais pour la plupart des projets, de manière plus classique, on m'envoie un scénario, donc j'ai une première lecture. Ou alors, je lis pas de scénario, mais on se rencontre avec un metteur en scène et on a une discussion autour de questions esthétiques générales et particulières. Et en fait, on essaye de voir si on a un langage commun. Parce qu'en fait, parler d'image, c'est assez complexe. Donc, parfois, ils ont vu mes films, parfois pas. Mais bon, la plupart du temps, oui, bien sûr, ils ont observé mon travail. Et en général, il y a un aspect de ce travail-là qui les intéresse. Moi, de mon côté... Moi, je travaille plutôt avec des réalisateurs de films d'auteur, enfin ce qu'on appelle films d'auteur, même si c'est un terme un peu barbare. Et donc, du coup, ça me permet j'essaye de chercher des approches singulières. Donc, le scénario, c'est forcément une première idée, mais en fait, ça suffit pas toujours. Donc, forcément, le metteur en scène, ça influence beaucoup. Même la lecture elle-même du scénario, parce que forcément si on travaille avec si on travaille avec un tel ou un tel metteur en scène, on sait bien que c'est-à-dire que si j'ai vu leur travail précédent, je me doute, ça me donne une idée de la facture du film. On se doute bien que euh, que bah là je viens de travailler avec Pierre et Patrick Trévidi, qu'eux ils vont pas forcément vouloir d'un film tout à l'épaule, et ils vont peut-être vouloir des choses plus travaillées à certains moments, ou enfin en tout cas enfin plus travaillées, ça veut rien dire, mais voilà, du coup là, le processus en tout cas c'est celui-là. Et ce processus évidemment il implique de faire un choix à un moment donné, parce que faire un film ça prend entre 3 et 5 mois
de tournage.
Non, en termes de là j'inclus la préparation, donc c'est-à-dire de la, en ce moment les films ça tourne autour de 8 semaines les tournages, ce qui est assez rapide finalement, et donc la prépa c'est à peu près autant, donc ça fait entre 6 et 8 semaines de prépa et 8 semaines de tournage, donc ça, voilà, ça fait 16 semaines ce qui enfin voilà, on est entre 3 et 4 mois quoi.
La préparation, du coup, c'est le moment où tu commences à lire le scénario, ou c'est le moment où tu commences à faire les choix avec le réalisateur?
Non, je parle du moment où on commence à faire des choix. Parce D'accord. que le scénario, je peux l'avoir même, en général, je l'ai des mois avant. Donc par exemple, là en ce moment, je commence à recevoir des projets pour le printemps et pour cet été. Donc j'ai une première lecture, je rencontrerai un metteur en scène, on a déjà une première discussion.
Justement, à partir de quoi s'établissent ces discussions? Est-ce que c'est le scénario, et du coup, le scénario, c'est essentiellement des mots qui permettent de comprendre l'histoire? Ou est-ce que vous travaillez aussi à partir d'images, de films, références, à la fois de vos filmographies, et puis peut-être d'autres réalisateurs?
Il n'y a pas de règles, ça va dépendre des metteurs en scène, mais quand même, la plupart du temps, oui, on va travailler avec, d'abord avec le scénario, s'ils me l'ont fait lire, mais la plupart du temps, ils me le font lire. Mais bien souvent, ça, il y a d'abord une rencontre. Et on discute des films que moi j'ai vus de ces metteurs en scène précédemment, s'ils en ont fait. Et ensuite, déjà, on regarde si, voilà, comme je disais, si on a un langage commun, si quand on parle d'image, mais ça peut être de littérature, ça peut être assez général finalement. Et ensuite, il y a une lecture de scénario, et là, quand on se revoit, il y a une première discussion préparatoire, et en général, quelque part, le metteur en scène fait part de son fantasme de film, et moi je fais part de ce que j'ai cru lire à travers les lignes du scénario, qui se caractérise en termes d'image. Donc par exemple, je vais dire, tiens, dans le scénario, les matières m'ont semblé très importantes, on sent bien l'eau, on sent bien la pierre, ça donne envie d'une image peut-être un peu ciselée pour bien changer, pour bien sentir ces matières-là. On a le sentiment que le film il est construit en deux ou trois ou quatre ou cinq parties, donc du coup, est-ce que ces parties-là, on les traite de la même manière? Ou au contraire, le film il semble se glisser tout doucement vers une forme d'appauvrissement? Est-ce que du coup, on joue aussi une forme d'appauvrissement de l'image qui serait, par exemple, caractérisée par une image qui commencerait très rutilante, très brillante, très colorée, et puis qui se terminerait vers des choix beaucoup plus monochromatiques? Donc tout ça, c'est déjà en fait une première étape préparatoire très importante, parce qu'en général, on n'est pas encore dans la pression justement de la prépa pré-tournage. Et du coup, il y a des discussions beaucoup plus profondes et presque philosophiques sur finalement le sens du film, et donc dans quel sens l'image elle travaille les sens intrinsèques du film. Après, quand la vraie prépa commence, donc là on est à 6 ou 8 semaines avant le tournage, sur les toutes premières rencontres, il arrive aussi que, comme je disais, le metteur en scène il fasse part de ses désirs aussi de cinéma, et donc du coup il va me dire, bah, moi je veux plutôt une petite équipe, moi je veux plutôt avoir beaucoup de moyens, je veux que la lumière elle soit travaillée dans tel et tel sens, moi j'aime beaucoup le steadicam, j'aime beaucoup la caméra portée, donc déjà moi ça me donne aussi des indications de la mise en œuvre technique du film, et des sacrifices ou pas que le metteur en scène va être prêt à faire ou pas, d'un point de vue plastique, de ce qu'on va être capable de faire ou pas, avec les données imparties. Par exemple, s'il veut une toute petite équipe, bah, je sais que peut-être en électricité ou en machinerie, je vais forcément devoir être plus fin, parce que en fait, j'aurais peut-être pas les moyens de rééclairer des parties entières du décor. Donc ça me donne déjà une première indication. Puis même plastiquement, ça donne déjà des idées techniques vraiment concrètes. En fait, moi, s'il me dit une image précise, une image comme ci, une image comme ça, ça élimine déjà des choses dans ma tête, et je me dis, bon, ça non, ça non, ça non. Et ça sera plutôt vers ça qu'il faut tendre.
Et donc, on revient vraiment à l'idée de faire des choix sur plein d'aspects, en fait, les aspects très techniques de quel matériel on peut choisir, Et puis aussi des questions plus artistiques de quelle lumière ou quelle intention on va donner aux
Ouais,
images.
absolument. Les deux sont complètement liés. Surtout, bah en fait, à travers le métier d'opérateur, c'est tout est affaire de traduction technique. Donc en fonction des mots que le metteur en scène emploie, une image voluptueuse, quelque chose de l'ordre de la dérive, quelque chose qui va venir se simplifier, des choses comme ça. En fait, moi, ça me guide techniquement sur des désirs et même parfois sur les compositions des cadres. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Par exemple, là, le dernier scénario que j'ai lu, c'est l'histoire d'un homme qui va à la dérive. Et donc, du coup, ce mot dérive, c'est celui qui a été employé par le metteur en scène. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, ce serait beau qu'il y ait des travelling, mais pas juste des travelling dans la première partie du film de la dérive, mais des travelling peut-être un peu en retard, peut-être pas synchrone avec le personnage principal, que ça glisse. Bon, voilà, c'est des choses comme ça. Et ça, forcément, ça implique bah, tout de suite une mise en œuvre technique. Donc, s'il y a travelling, ça veut dire qu'il y a un peu de machinerie. Est-ce que c'est des travelling? Est-ce que c'est peut-être du steadicam? Enfin, voilà, tout de suite, ça devient des parties pris techniques.
J'aimerais revenir sur un film qui est sorti récemment, qui est Sherazade de Jean-Bernard Marlin. Il a fait la même école que toi, Louis Lumière. C'est son premier film en tant que réalisateur. Toi, comment est-ce que tu t'es inséré sur ce projet et dans sa filmographie?
Eh ben en fait donc quand Jean-Bernard m'a contacté, il m'avait envoyé ses films, donc j'avais pu voir La Fugue, qui était un peu le film emblématique qu'il avait réalisé. Et effectivement, j'avais trouvé les comédiens vraiment très très bien dirigés. C'était très réussi en termes de voilà d'énergie, de mise en scène. Ça rappelait un peu les premiers films de Kechiche, donc très à l'épaule, très brut, un peu voilà quelque chose d'un peu sauvage qui me plaisait bien. Et ça me plaisait aussi, c'est-à-dire que Jean-Bernard, il travaillait avec un autre opérateur avant, et quand il est venu me rencontrer, c'est parce que cet opérateur-là n'était pas disponible à la période de son tournage. Et du coup, il m'a dit, bah, puisque je change d'opérateur, ce qui va m'intéresser, c'est de ne pas être exactement sur le même registre. Donc, quand bien même les films précédents que j'avais faits étaient tout à l'épaule, j'aimerais bien que tu me proposes des choses parfois plus ambitieuse mais plus expressive, voilà, parce que la caméra à l'épaule, elle a ce plaisir d'être très mobile, d'être très organique, mais elle peut représenter une forme d'absence de choix à certains moments. Et donc du coup, lui, il me disait, bah, quelque part dans ce que j'ai vu de ton travail, ce qui me plaît par exemple dans Mange tes morts de Jean Charlus, c'est qu'il y a à la fois des parties pris d'épaule très libres et en même temps des parties pris plus expressifs avec des travelling, avec des zooms, des choses comme ça. Et aussi à la lumière, il m'avait dit, bah, je veux qu'on y croie, mais je veux pas que ce soit trop réaliste non plus parfois. Donc du coup, une fois que j'ai ça, j'ai déjà pas mal de cartes en main en fait. C'est-à-dire que je sais que il y a un certain naturalisme, même si je trouve que c'est un terme assez dangereux, par exemple, le côté naturel, naturaliste, je sais pas exactement ce que ça peut vouloir dire. Donc ça d'un côté. De l'autre, je savais qu'il avait envie d'une image plus stylisée, donc parfois plus avec des couleurs peut-être plus franches, plus qui dérivent un petit peu plus, justement, qui sont peut-être pas exactement ce qu'on attendrait des couleurs d'un lieu. Par exemple, je pense aux nuits de Scheherazade, il y a des vrais effets de couleurs entre guillemets non naturels. C'est-à-dire que moi, je suis allé chercher vraiment des nuits beaucoup plus denses que celles que Marseille proposait pour retrouver comme ça une forme de noirceur qui caractérisait un peu le film. Et puis, on est allé aussi chercher un outil comme le zoom pour créer comme ça des effets d'expressivité qui insère le personnage dans un décor quand on dézoome ou alors qui, au contraire, le rendent plus solitaire à l'intérieur d'un plan et du coup c'est vrai après on a eu quelques références à l'intérieur de ça donc d'un côté par exemple Jean-Bernard il me parlait de Kids de Larry Clark qui est un film qui justement réussit bien ce mélange entre les deux et de l'autre côté il était très fan de Coppola donc pour la lumière je voyais bien ce que ça pouvait leur représenter.
Et ces choix qui sont très affirmés dans le film et qu'on retrouve à la fois dans les jours et dans les nuits, est-ce qu'ils sont passés d'abord par toi ou est-ce que il y avait aussi des idées du côté du metteur en scène?
Ah bah les deux, c'est un travail, de toute façon, c'est un travail collectif. je choisis pas des partis pris comme ça dans mon coin et j'arrive avec et je les impose au metteur en scène en disant bah c'est comme ça l'image et pas autrement. C'est, enfin, ça me semble pas intéressant de travailler comme ça. Ce que je trouve riche au contraire, c'est d'écouter ce qu'il a à me dire et puis ensuite d'être force de proposition par rapport à ça en lui disant bah tiens, qu'est-ce que tu penserais de l'utilisation d'un zoom sur cette séquence ou tiens, tu vois là, j'aimerais bien peut-être que tu vois là, je vais faire éteindre les sodiums de la rue parce que comme ça, il y aura une vraie noirceur. Alors parfois, on n'a pas le temps de discuter de toutes les séquences, mais il n'empêche que j'essaie de créer une progression. Donc par exemple, dans Scheherazade, il y a des éléments dont on ne s'était pas parlé, mais sur le travail des densités, Jean-Bernard m'avait dit ça ne me fait pas peur la sous-exposition, donc c'est vrai qu'on est allé vers des images parfois assez denses.
Et on voit, il y a notamment des scènes avec les deux personnages du coup, qui sont deux jeunes délinquants. C'est une histoire d'amour, et il y a des scènes où ils s'embrassent par exemple et on voit quasiment pas leur baiser. Et ce sont des scènes qui sont assez marquantes parce que quand on les voit notamment au cinéma sur un grand écran, on est totalement plongé dans le noir avec ces personnages. Est-ce que ça, du coup, c'est un choix qui convient au réalisateur au sens où, vu qu'on ne voit plus rien, est-ce que c'est un choix esthétique dont vous avez discuté avant? Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi peut-être apparu sur le tournage et qui a été intuitif, improvisé?
Il y a une part d'intuition, c'est-à-dire que comme en fait il y a une grande part d'improvisation avec les comédiens chez Jean-Bernard, il y avait pas de marque au sol, enfin bien sûr qu'a priori le baiser il se faisait dans le lit, mais enfin c'était pas écrit de manière évidente. Dans le scénario, il était écrit que Scheherazade éteint la lumière, donc forcément il y avait une forme de pénombre. Alors après, on pourrait faire une pénombre, j'aurais pu faire une pénombre plus éclairée, plus lisible, mais en fait, quelque part, charge à l'image de protéger, de prendre en charge les comédiens et de les accompagner dans les émotions qui les traversent. Et ça, c'est valable pour tous les films, c'est pas seulement valable pour Scheherazade, bien sûr, mais c'est-à-dire que en fait, la lumière, en fonction de ce qu'elle cache et de ce qu'elle révèle, elle va permettre aux comédiens d'accéder ou pas à une forme d'émotion à l'intérieur d'une séquence. Et je peux prendre deux exemples. Il y a bien sûr l'exemple du baiser, où en fait, il y a une forme d'intimité et de romantique à l'intérieur de cette séquence. Donc du coup, le fait de les laisser plonger dans le noir, ça leur donne une forme de liberté à l'intérieur de cette obscurité. C'est-à-dire que, et il ne faut pas croire, mais les comédiens même, entre guillemets, non professionnels comme ils l'étaient, ils sentent très très bien s'ils sont pris en charge par le cadre et par la lumière. C'est-à-dire qu'ils sentent la présence de la caméra ou pas, ils sentent s'ils sont éclairés ou pas. Donc du coup, ils ont une sensation dont on voit quand même, parce qu'il y a ce petit lapin qui est derrière eux et qui du coup, en fait, fait que leur visage se dessine. Donc en fait, ça fait des ombres chinoises. Mais du coup, je leur avais juste dit, au moment où vous vous embrassez, vous mettez le lapin à un endroit proche de vos visages. Et j'avais juste cette marge de manœuvre-là. Ce qui fait que ça dessine un peu leur visage. Mais la séquence les accompagne dans ce côté romanesque, tendre, intime et personnel, du coup. Et une deuxième séquence, par exemple, pour prendre un exemple aussi à l'intérieur de ce film, lorsque donc cette jeune prostituée réalise une passe à trois avec les trois jeunes garçons à l'intérieur d'une cour d'immeuble, pour la comédienne, c'est assez difficile de jouer ça parce que elle n'est pas actrice professionnelle. Dans son milieu, c'est pas forcément très bien perçu qu'elle soit en train de jouer la comédie et de jouer en plus une jeune prostituée. Et du coup, charge à moi, je suis allé la voir et je lui ai dit, tu sais, t'inquiète pas, en fait, on va voir sans voir. C'est-à-dire qu'on va très bien comprendre ce dont il s'agit, mais ne t'inquiète pas, on ne verra pas ta nudité et ce qu'on verra sera suffisamment suggestif pour comprendre la violence de ce que tu vis sans qu'on ait besoin de le voir de manière vulgaire. Et je crois que c'est important aussi en tant qu'opérateur d'être sensible à la poésie que la lumière a ou n'a pas, et donc de montrer, parfois c'est pas nécessaire. Et donc de garder dans la pénombre, de garder dans l'ombre, c'est beaucoup plus puissant que de montrer, que d'éclairer, que de filmer.
Et en fait, tu es responsable de l'image du film, mais aussi de l'image des personnes que tu filmes. Et dans le cas où tu filmes notamment des comédiens non professionnels, et ça a pu être le cas sur Mange tes morts, ou ici avec Scheherazade, où c'était en plus, ils étaient beaucoup plus jeunes, certains, comment est-ce que tu arrives à avoir un dialogue avec eux qui n'est pas un dialogue technique comme avec le réalisateur, mais où tu vas quand même arriver à leur faire comprendre les enjeux de la séquence en termes de lumière et ce que tu vas faire ou non d'un point de vue technique.
Bah, c'est un dialogue qui est quand même beaucoup basé sur la confiance, donc c'est quelque chose qui se construit lors des premiers jours de tournage, c'est-à-dire que assez vite. Mais je crois que c'est assez valable avec les comédiens professionnels, c'est-à-dire que, en fait, la seule différence, c'est que les comédiens professionnels, même s'ils ont des clés pour comprendre la technique ou s'ils ont des clés pour se sentir plus ou moins à l'aise ou pas, le trac reste quand même très important, le fait de se montrer à une caméra. Et du coup, évidemment, ça c'est exponentiel quand les comédiens sont pas encore très habitués, parce qu'en fait, on dit qu'ils sont non professionnels, mais en fait, ils sont quand même payés pour jouer, ils sont là, ils sont présents, ils ont appris leur texte. Donc, quelque
ils
part,
s'habituent
moi,
aussi
ils sont...
au tournage. Font...
Oui, très vite, ce ils sont des professionnels.
Si ça dure 8 semaines, ils sont pas. Ils vont plus s'habituer la 7e semaine, peut-être que la. Peut-être
oui.
que la première, dans leur façon de jouer, aussi dans leur rapport à l'équipe technique.
Bien sûr, mais après, en fait, il y a du travail en amont, par exemple. Moi, je suis allé filmer des répétitions avec Kenza et Dylan. Les Gitans, j'étais allé les voir aussi en amont, je les avais filmés. Donc, quand j'arrive le premier jour du tournage, on se connaît déjà. C'est pas découverte de « Ah tiens, comment tu t'appelles ?» On se connaît déjà, on s'est déjà parlé. Ils ont vu comment je me positionnais par rapport à eux, comment je me comporte aussi, la distance ou pas que je peux mettre par rapport à eux. Et en fait, la confiance, elle se crée comme ça. Et c'est-à-dire que moi, je vais essayer de leur donner une grande liberté, donc en fonction de ce que veut le metteur en scène, de leur permettre d'improviser ou pas. Et puis, peut-être sur certaines séquences où peut-être que moi, j'ai plus de difficultés à trouver une esthétique qui corresponde bien à la séquence, ou peut-être que j'ai plus de difficultés à éclairer parce que le décor me le permet moins. Ben, je vais peut-être leur dire non, mais là, je veux vraiment que tu sois là, sois attentif, écoute ce que je suis en train de te dire. Et comme en fait, auparavant, je leur ai peut-être donné une liberté ou je leur ai fait confiance, et ben, là, c'est à leur tour de m'aider aussi à parvenir à esthétiquement le bon rendu. Donc, c'est un travail ensemble, en fait. Donc, c'est du travail, en fait. Et parce qu'on est en train de travailler, parce qu'on sent que c'est pas évident, qu'on se fait confiance, qu'on se parle. À un moment donné, les liens sont tissés et du coup, ça circule.
Tu as évoqué le film Mange tes morts qui est sorti en 2014 et qui était le premier film sur lequel tu as travaillé à la sortie de l'école en tant que chef opérateur. Ça raconte l'histoire d'un retour d'un grand frère dans une famille après 15 ans où il était en prison. C'est joué dans une communauté de gitans avec des gitans. Comment s'est passé le tournage et comment est-ce que vous avez réussi avec une petite équipe, un petit budget et un tournage peut-être un peu compliqué, comment vous avez réussi à gérer ces situations ?
C'était un tournage, mais c'était aussi un peu une aventure. C'est-à-dire que bon, ce qui a beaucoup aidé, c'est que donc effectivement, comme tu l'as dit, je sortais juste de l'école, c'était en 2014. J'ai même fait commencer la préparation du film, j'étais encore étudiant. Et du coup, ce que j'ai fait, d'abord, la première chose, c'est qu'en fait, j'ai pris des gens qui étaient autour de moi. Je suis pas allé chercher des techniciens qui auraient eu pas mal d'années d'expérience. Je me suis dit, puisqu'on va être une équipe toute petite, je vais plutôt privilégier des gens en qui j'ai confiance et qui vont m'accompagner dans les difficultés qu'on va rencontrer plutôt que de prendre des gens qui auront beaucoup plus d'assises, une assise technique. Du coup, ça a fait aussi que le film était aussi une aventure humaine forte. Après, du point de vue des gitans, bon, c'était très compliqué parce que les Yenish de Beauvais sont un groupe qui est assez violent encore. Hein, qui est assez, c'est comme de rentrer vraiment dans une communauté presque archaïque. Maintenant, le metteur en scène, donc Jean-Charles Hu, il les connaissait depuis des années, depuis 15 ou 20 ans. Donc il les connaissait très bien. Et quand on rentre dans ce genre de groupe ou de communauté, il faut en accepter les codes. Donc c'est-à-dire que très vite, il faut comprendre ces codes et ensuite, il faut les accepter. Après, bon, c'était un tournage rocambolesque, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait pas une journée sans problème et sans... Enfin, je pourrais difficilement raconter tout le film aujourd'hui. C'est vraiment... Enfin, le tournage était vraiment très, très, très particulier. Hein. C'était vraiment à mi-chemin entre du documentaire et de la fiction, mais... aussi d'un point de vue humain, voilà, c'était, il y a eu des courses-poursuites, il y a eu des accidents, il y a eu des, il y avait des armes à feu, enfin il y avait tout ce qu'il fallait pour en faire un tournage vraiment épique. Et
Donc tu as évoqué l'école qui est Louis Lumière, qui est une des deux écoles publiques qui forment les chefs opérateurs en France. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours scolaire après le bac et à quel moment tu as choisi ce métier?
Donc après, après le bac, moi j'ai fait un BTS audiovisuel à Montaigu, en Vendée. Donc c'est un BTS image et ça me plaisait bien parce qu'à l'époque, je sortais du bac, je m'intéressais plutôt à la mise en scène. Mais j'étais quand même intéressé par les aspects pratiques et même techniques du métier. Et puis j'ai fait une rencontre assez importante qui était un des professeurs qui enseigne là-bas, qui s'appelle Jérôme Baron, qui lui est très qui est le directeur du Festival des Trois Continents. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé d'un point de vue documentaire. Donc à partir de ce moment-là, je me suis vraiment, voilà, je me suis intéressé au documentaire. Ensuite, j'ai fait une année à Paris 3. Donc une année plutôt théorique, mais pendant laquelle j'ai continué à tourner des petites choses et à faire des rencontres. Et puis je suis parti à l'étranger une année en Erasmus. Donc là j'ai fait, donc là j'étais étudiant à l'université Charles. Et c'est là aussi où j'ai commencé à être assistant. Enfin j'ai fait 2-3 tournages comme assistant
C'était
sur
dans quel
place.
pays?
C'était en République tchèque, parce que je voulais absolument parler anglais. Et puis ça me plaisait bien d'être dans un des pays de l'ex-Union soviétique. Et parce que j'admire beaucoup certains photographes tchèques, comme Miroslav Tichy, par exemple. Enfin, surtout Miroslav Tichy. Donc, ça a été la raison de
Donc,
ce
tu es parti
choix.
vraiment dans l'optique de tourner, ou c'était plus dans une optique de découvrir le pays?
Non, je crois que je me posais encore pas mal de questions sur ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et du coup, même, j'ai fait pas mal de photographies à cette époque-là. Et j'avais presque un peu mis de côté le cinéma pendant un an. Et
Et
puis.
justement, est-ce que ça a été un moment, cette année à l'étranger, qui permet justement de cristalliser ou de découvrir un peu ce qu'on veut faire?
Je
Est-ce
sais pas.
que c'est le moment où toi tu t'es dit je veux être opérateur?
En tout cas, c'est là que j'ai tenté le concours pour la première fois de Louis Lumière et de la FEMIS, et que je n'ai eu aucun des deux. Mais je crois que si je l'ai pas eu, c'est aussi parce que je savais pas très bien encore ce que je voulais. Je crois que ça s'est déterminé plutôt l'année d'après, c'était plutôt des rencontres. C'est-à-dire que. Durant cette année-là, j'ai fait beaucoup de photos, donc c'est sûr que l'image a commencé à prendre pas mal d'importance. Mais ça restait, je pense, encore flou, et je crois que le travail de directeur photo, ça restait encore assez flou pour moi. C'est seulement l'année d'après, où là, du coup, comme j'avais raté les concours, j'ai fait une année à Paris 8, en m'intéressant beaucoup toujours au documentaire. Et donc d'ailleurs j'avais pris spécialité documentaire là-bas, et là par contre les rencontres elles ont été déterminantes, dans la mesure où en fait il y avait beaucoup de gens qui donc du coup voulaient réaliser des documentaires, des gens qui étaient notamment d'Amérique latine, et puis des gens de France, et là j'ai fait des rencontres avec des gens qui voulaient faire des films mais qui avaient aucun bagage technique. Et du coup, moi, ce bagage, je l'avais un petit peu. Donc, du coup, je me suis retrouvé sur plein de petits projets, enfin petits ou grands d'ailleurs, à être vraiment l'interlocuteur privilégié. Et c'est là que ça a commencé à se cristalliser.
Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as compris ce qu'était vraiment le métier d'opérateur?
En tout cas, c'est là que j'ai commencé à formuler un désir autour de ça. Ouais. C'est là que c'est devenu plus clair C'est là que c'est devenu plus clair. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que je me suis rendu compte que j'étais bon à ça. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de jeunes comme moi, j'ai pu l'être, ont envie d'être metteur en scène et d'être réalisateur, et fantasment un peu le métier de réalisateur, qui en fait est un métier mais n'en est pas complètement un non plus. Notamment dans le sens où c'est compliqué quand même de gagner sa vie financièrement en tant que réalisateur aujourd'hui en France. Donc ça d'un côté, et surtout se rendre compte à quoi on est bon. Et du coup, moi je sais que je suis bon à accompagner des gens en fait. Je suis bon à écouter ce qu'on me dit et à le transformer en idée, à accompagner, à être force de proposition et à être, voilà, je suis fort à ça. Donc du coup, ça se concrétise bien dans le métier d'opérateur où en fait on est force de proposition, en même temps on accompagne un projet. Donc, et en plus, j'ai le luxe de tous les soirs de tournage, j'ai le sentiment d'avoir fabriqué un petit quelque chose. C'est-à-dire que je manipule pas seulement une matière molle, je manipule aussi une matière très concrète. Parce que quand je dis matière molle, j'entends les comédiens. C'est-à-dire que je pense que quand on est réalisateur, c'est difficile le tournage, notamment parce qu'en fait, on n'est pas sûr de ce qu'on a réussi ou pas. En tant qu'opérateur, je pense qu'on sait à peu près si on a réussi à fabriquer une image originale ou pas, parce qu'on la visualise tout de suite, on sait si ce qu'on a fait, la plupart du temps, on sait si on a réussi ce qu'on voulait faire.
Notamment parce que toi, tu cadres tes films, c'est-à-dire que tu es derrière la caméra et que c'est toi qui choisis ce qui va être montré ou pas, et ce que le spectateur va voir en fait.
Bah, il y a de ça, il y a le fait que je cadre, mais ça, de toute façon, le cadre, je le détermine quand même avec le metteur en scène. Je suis à son écoute, donc c'est vraiment
toi qui
un
le vois au
travail.
moment où tu tournes, ou il y a aussi des retours vidéo ou ce genre de dispositif qui permettent
Oui,
à d'autres
tout à
membres
fait. Bah,
de voir?
c'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que. Alors, oui, je cadre toujours tous les films que je fais parce que c'est ce qui me permet d'être proche de la mise en scène. Et effectivement, j'ai le sentiment d'être le premier spectateur puisque je suis vraiment du coup très proche des comédiens. Je suis dans la pièce avec eux, donc je ressens très fortement ce qu'ils ressentent, et donc ça m'aide aussi dans mon travail et de lumière et de chef opérateur de. Enfin, d'ailleurs, je préfère le terme directeur de la photographie, je trouve ça beaucoup plus beau. Et donc dans le rôle de directeur de la photographie, ça m'aide à accompagner les comédiens, à être autour d'eux, à bien sentir si le cadre est bon ou pas, si la distance est juste ou pas, si la lumière correspond à la séquence ou pas.
Est-ce que du coup, ce sont des choses que tu as appris en documentaire lors de cette année-là, avant de vraiment apprendre le métier en école? Est-ce qu'il y a des projets qui t'ont
Oui,
un projet
beaucoup.
en particulier peut-être qui t'a permis de vraiment voir que tu étais cet interlocuteur entre le metteur en scène et ce qui était filmé?
Oui, il y a eu plusieurs. En tout cas, c'est sûr que d'être passé par le documentaire, ça m'a donné un rapport aux choses beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Si je dis beaucoup plus, c'est un peu antinomique, mais. En documentaire, il y a un rapport à l'humain qui est très important. Beaucoup plus qu'en fiction. Enfin. Beaucoup plus que dans la plupart des fictions, je me corrige. Dans beaucoup de fictions, il y a un rapport très pragmatique à la fabrication d'une image, d'un cadre, d'une mise en scène, du son, etc. Alors qu'en documentaire, il y a un rapport à l'improvisation, un rapport à la chose en train d'être effectuée, et un rapport aux êtres humains avec lesquels on partage forcément quelque chose qui est nécessaire et immédiat. Être passé par là, je pense que ça m'a donné un rapport au cadre très fort, parce que du coup, forcément, ça demande une précision très, très immédiate, et aussi un plaisir d'être avec la chose en train d'être faite. Du coup, ça fait que parfois, je pense en fiction, je suis un peu impatient, c'est-à-dire que quand je suis en fiction, j'ai très envie de faire un documentaire, et quand je suis en documentaire, j'ai très envie de faire une fiction. Mais en même temps, je pense que c'est ça, moi, les films que je préfère, je me pose pas la question de savoir si c'est un documentaire ou une fiction, c'est un film avant tout. Et je m'en fiche de savoir si, entre guillemets, ce sont des vrais gens ou des faux gens. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que le film me procure comme émotion et qu'est-ce qu'il me raconte sur le monde dans lequel je vis. Donc je crois que d'être passé par le documentaire, ça m'a donné ce rapport-là aux choses. Et oui, dans cette année où j'ai commencé à faire des documentaires avec des gens et même du coup des fictions, parce qu'il y avait aussi des gens qui faisaient de la fiction. Oui, ça a été déterminant, donc il y a eu deux, trois projets importants.
Donc ensuite, tu es entré à Louis Lumière.
Absolument.
Qu'est-ce que tu as appris dans cette école?
Bah, Louis Lumière, plein de choses. D'abord, je crois, disons que Louis Lumière, c'est l'académie, quoi, d'une certaine manière. Donc, comme toute académie, elle a une forme de bagages pédagogiques et donc du coup une forme de moule hein, qui était un peu moi ma crainte et qui était un petit peu ce pourquoi au départ j'étais pas certain de vouloir tenter ces écoles-là et donc forcément voilà il y a l'école vient avec un background et tout ce bagage technique technologique et même du coup d'un certain point de vue esthétique m'a permis d'apprendre à la fois plein de choses donc d'une certaine manière, un certain type de cinéma, un certain type de technique, voilà, un certain type de rapport à la chose qu'il faut fabriquer. De l'autre, j'ai aussi fait beaucoup de rencontres dans ma promotion de gens qui n'avaient pas du tout le même passé que moi, et donc du coup qui n'étaient pas intéressés par les mêmes choses que moi, qui n'avaient pas vu les mêmes films et qui n'étaient pas intéressés par faire les mêmes films. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me permettait d'apprendre aussi beaucoup de choses. Et par exemple, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé à Lulumière, du coup, j'avais un bagage beaucoup plus en documentaire presque qu'en fiction. Donc, je connaissais pas les noms de 36 opérateurs, quoi. J'étais pas fasciné par l'image de Storaro ou par l'image de Roger Deakins ou voilà, des gens qui font des films actuellement. Enfin, Storaro un peu moins, mais...
Qui sont des chefs opérateurs qui font plutôt une image conventionnelle.
Bah, Storaro, c'est plus varié, mais oui.
Qui mettent beaucoup de sens dans la lumière et qui essayent de dramatiser et qui maîtrisent en fait beaucoup plus la lumière que ce que tu peux faire dans le documentaire ou dans certains cinémas comme La Nouvelle Vague ou même dans le nouvel Hollywood américain avec Wilmot Zsigmond qui essaye plus de capter la lumière naturelle. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait les...
Oui, tout à fait.
Une opposition
tout
un fait. Peu
c'est sûr que j'étais plus. Et d'ailleurs, je me situe toujours plus du côté de tout ce qu'a fait Wilmot Zsigmond que de ce que fait Roger Deakins. Ça, c'est, enfin, en tout cas, moi, d'un point de vue, même d'un point de vue presque moral, presque politique, je me situerai toujours plus du côté de ces opérateurs-là, dont j'admire beaucoup plus le travail et les films, que du point de vue de Roger Deakins, dont je trouve le travail formidable. Mais de mon point de vue, il y a toujours je trouve ça vraiment incroyable hein, ce qu'il fait. Même Lubezki, je trouve que c'est vraiment un opérateur brillantissime. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'aime pas toujours les films qu'ils font. Et je trouve ça presque dommage parfois de mettre autant de talent pour des films dont je trouve le contenu parfois assez faible.
Tu aimerais le voir dans d'autres films avec d'autres réalisateurs.
Ah ouais, j'adorerais voir Lubezki travailler sur des films peut-être à plus petit budget, mais moi, par exemple, je trouve The Revenant, je trouve ça inintéressant. J'ai même pas pu le voir jusqu'à la fin. Je trouve que plastiquement, c'est formidable, mais je trouve qu'il se passe rien dans le film. Non, mais peut-être que je l'ai pas bien regardé. Hein, j'ai mon avis vaut que pour moi, mais je comprends pas quoi. Et je préfère les films qu'il faisait quand il était plus jeune. Mais voilà. En tout cas, par rapport à la question initiale, c'est sûr que à Louis Lumière, j'ai vraiment pu rencontrer du coup tous ces gens-là. Et en fait, ça m'a vraiment considérablement enrichi. Et c'est là aussi que je me suis réintéressé à la fiction en me disant, en fait, je peux apporter vraiment des choses. Parce que j'étais pas. Il faudrait pas croire que l'image m'intéressait pas, et même la fabrication de l'image. Par exemple, moi j'aime beaucoup Pedro Costa et ses images, elles sont très fabriquées. C'est très éclairé, mais par contre, c'est éclairé d'une certaine manière. Et c'est fabriqué d'une certaine manière. Même on parlait de Zsigmond, de Le Voyage au bout de l'enfer, c'est très fabriqué. Donc je suis pas du tout intéressé par l'image qui n'est. Enfin. C'est pour ça que je me méfie par exemple du terme naturel, même lumière naturelle, je sais pas, enfin, si par lumière naturelle on entend la lumière du soleil, alors ça me va, ou du ciel, mais la question du naturel, ça me gêne toujours un peu au cinéma, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de naturel au cinéma, y compris en documentaire, c'est-à-dire que tout est fabriqué, de toute façon.
Par exemple, on parlait de Lubezki qui a fait The Revenant, Gravity, Les Fils de l'Homme avec Alfonso Cuarón, il utilisait la lumière naturelle, mais il y a beaucoup de travail de préparation et de comment il va capter la lumière du soleil d'une certaine façon.
Tout à fait.
Et c'est pas du tout un travail documentaire où il va arriver sur un lieu et
tout à fait. Puis il y a un travail de post-production aussi derrière. Donc tout ça,
sur les derniers films où c'est assez vertigineux. Il y a beaucoup de budget qui est là-dedans.
Oui, dans la post-production et dans la prise de vue. Par exemple, The Revenant, c'est 9 mois de tournage et on tourne que à l'aube et au coucher du soleil. Donc en termes de lumière naturelle, c'est plutôt pas mal.
C'est un luxe.
C'est le luxe. Incroyable. Absolu, c'est sûr. C'est le luxe absolu. Peu de films peuvent se targuer d'avoir la possibilité de travailler comme ça. Mais je trouve ça super aussi qu'il y ait des metteurs en scène qui aient envie de faire ça. Je trouve ça juste dommage que le scénario soit pas à la hauteur de ça. Mais ça, c'est une autre question. Et en tout cas, oui, quelque part, le côté naturel d'une image, pour moi, veut pas dire grand chose. C'est-à-dire que de toute façon, il y a un point de vue, de toute façon, il y a fabrication, et ce même en documentaire. Donc, c'est pas parce qu'on fait un documentaire, par exemple, que ça doit être assez moche, que ça doit être mal cadré, que ça doit être mal composé. C'est pas parce qu'on fait une fiction que c'est forcément lourd, avec beaucoup de techniques. Je crois qu'au contraire, le, 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 C'est la porosité de l'un avec l'autre qui fait que les films sont riches. Et aujourd'hui, en plus, on a de grandes libertés par rapport à ça. Donc, ouais, il faut en profiter.
Et du coup, là, ce sont presque des questions éthiques et politiques qu'on se pose quand on réalise ces films. Est-ce que c'est des questions que tu as pu découvrir et explorer lors de l'école, notamment en écrivant un mémoire? Ou est-ce que l'école, c'était surtout un apprentissage technique et des exercices en plateau, en post-production, avec des professeurs qui imposent un cadre? Est-ce que ce travail de recherche, il est important aussi pour définir sa pratique et quelque part son style, ou en tout cas sa démarche, son rapport au monde en tant que coopérateur?
Très bonne question. Je pense que Louis Lumière, en tant qu'académie, ne propose pas du tout cet enseignement. C'est même d'ailleurs, d'une certaine manière, une certaine critique. C'est-à-dire que comme c'est une académie, elle est un peu dans un enseignement, on va dire, relativement cadré, qui a ses choses positives, parce que du coup, c'est rigoureux. Et ça, c'est moi, j'en avais besoin, donc c'était bien. Mais par contre, si vous voulez aller chercher ces questionnements-là autour de l'éthique, du positionnement, du rapport au monde en tant que directeur de la photographie, il n'y aura pas de clé donnée par rapport à ça. Mais là, moi, d'une certaine manière, je me suis senti assez chanceux. C'est que, en fait, c'est des questions que j'avais déjà pu, sur lesquelles je m'étais déjà enrichi avant. Et donc, quand je suis arrivé à Louis Lumière, je ne venais pas chercher ça. Mais par contre, je l'avais un peu en tête. Donc, c'est vrai que... Il y a eu deux moments où j'ai vraiment pu m'interroger là-dessus durant les 3 années de l'enseignement. C'était la première fois, c'était lors du tournage d'un documentaire en première année. Et où moi j'avais. Donc là, on réalisait, mais bon, c'était réalisation-image. Et donc moi j'avais travaillé, enfin j'avais fait un film sur des hommes et des femmes atteints d'Alzheimer. Donc il y avait un rapport direct à la question de est-ce que j'ai le droit de les filmer? Parce qu'en fait, avec Cyril, qui était mon compagnon sur ce film, enfin mon camarade sur ce film. On a mis en scène des choses et en fait on a profité même du fait même que les gens aient Alzheimer pour mettre en scène des choses. Donc on laissait la caméra sans bouger puis on reposait plein de fois les mêmes questions pour volontairement mettre en scène une forme de boucle temporelle. Et plus tard, la question de l'éthique et du rapport, moi je l'ai beaucoup abordé dans mon mémoire. La question de la distance à la caméra, de l'utilisation d'une focale ou non, de l'utilisation de la caméra épaule ou non. D'un rapport à la lumière, comme je le disais au début de cette discussion, sur ce qu'il faut cacher, ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut dévoiler, ce qu'il faut pas dévoiler, et du coup voilà tout ce rapport là.
Je trouve qu'on a la chance de connaître une époque où le cinéma et la production d'images en général est bouleversée par beaucoup d'innovations techniques depuis 10 ans. Il y a des usages qui changent, il y a une démocratisation qui permet à tout le monde de bricoler des films, et aussi le fait qu'on puisse les voir un peu sur tous les supports. Est-ce que tu as une nostalgie de l'argentique, comme on voit qu'il y a beaucoup aujourd'hui, à la fois chez certains opérateurs, mais également chez beaucoup de réalisateurs? Est-ce que la pellicule 16 mm, 35 mm, ça représente quelque chose pour toi qui est arrivé en fait au moment où toutes les caméras numériques ont envahi le marché et ont changé vraiment la façon dont on tourne les films, ou en tout cas les outils qu'on utilise?
Je pense qu'il y a deux volets dans ta question. D'un côté il y a la production et de l'autre il y a la diffusion. D'un point de vue de la production, l'arrivée des nouveaux outils, elle est, moi je pense qu'elle est assez formidable, dans la mesure où ça donne plein de grandes libertés aux metteurs en scène et aux opérateurs. Par exemple Alain Cavalier qui fait des films avec sa toute petite caméra, ou Wang Bing en Chine qui a fait quand même des films formidables. Tous ces metteurs en scène n'aurait pas pu faire ces films-là de cette manière-là, avec l'outil pellicule. De la même manière, moi j'ai travaillé avec Albert Serra, qui fait des prises de vue de 45 minutes ou de 1h20. Ça, c'est des choses qui n'étaient pas possibles non plus en 35 mm. Et puis, il tourne à 3 caméras, enfin bref. Voilà, des choses où ça n'aurait pas été possible. Après, d'un point de vue post-production et diffusion, quelque part, il y a vraiment une perte de qualitative et même de rapport à l'image très forte. Parce que justement, du coup, une perte à la fois de contrôle, mais du coup, une perte... c'est pas le contrôle pour le contrôle qui moi, m'intéresse, mais simplement, il y a deux choses dans ce que je suis en train de dire. C'est d'un côté, il y a le contrôle, effectivement, pour que ce que les spectateurs voient, ce soit vraiment fidèle à ce qu'on a voulu faire. Donc du coup, c'est vrai que la multiplicité des supports, que ce soit sur téléphone, sur ordinateur portable, sur vidéoprojecteur ou en projection de salle. Et même à l'intérieur des projections de salle, ça devient très compliqué d'avoir la main mise sur la qualité des projections. Aujourd'hui, on est sur des projections donc de DCP, 2K, mais par exemple, il n'y a pas de vrai noir en projection en ce moment parce que le problème de la projection numérique, c'est qu'elle n'est pas assez précise pour l'instant. Et qu'il faudrait demander aux exploitants de réinvestir dans des projecteurs aujourd'hui plus modernes. Donc ça va se faire, mais on aura perdu 10 ou 15 ans avec des noirs quand même un peu gris et pas très intéressants. Même les blancs ne sont pas éclatants comme on pouvait l'avoir avec des projections 35. Donc là-dessus, il y a une vraie perte. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que la multiplicité des médias fait aussi qu'il y a une perte de la salle de cinéma par rapport à la possibilité de regarder des images chez soi. Alors certes, c'est formidable parce que du coup, il y a une forme d'accessibilité et le podcast, c'est assez chouette, par exemple. Mais il faut reconnaître que aussi, ça individualise le rapport aux œuvres. Et ça, je pense que c'est quand même très dommageable. C'est-à-dire que je pense que le fait de voir en même temps, dans une même salle, une même image, ça donne de la force aux images et ça donne de la force au fait de participer ensemble à une expérience collective. Et ça, à partir du moment où la salle de cinéma disparaît, cette expérience collective disparaît aussi. Et je pense que c'est pas la même chose de regarder un film chez soi en DVD, même si quelqu'un d'autre regarde le même film loin, c'est pas la même chose.
Et même sur un vidéoprojecteur d'ailleurs, on peut avoir un écran de 3 mètres chez soi et ce sera pas du tout la même expérience.
Bah non, parce que de toute façon, vous partagez, si c'est par essence, si c'est chez vous, les personnes avec qui vous partagez la projection, c'est forcément des gens que vous connaissez. Alors que l'intérêt de la salle de cinéma, c'est de partager quelque chose avec des gens que vous ne connaissez pas. D'où la notion d'expérience collective. Je ne considère pas que regarder un film en famille, ce soit une expérience collective. C'est une expérience familiale, c'est très bien, mais ce n'est pas une expérience collective. Et aujourd'hui, par exemple, on va aussi vers une presque disparition, par exemple, du film du dimanche sur la télé. Alors, on peut critiquer la programmation si on veut. Il n'empêche qu'on a tous baigné, enfants, avec l'idée que le lundi matin, quand vous arrivez à l'école, vous êtes nombreux à avoir vu le même film. Et cette notion-là d'expérience collective, si elle disparaît aussi du fait qu'aujourd'hui, en fait, on peut regarder autre chose en permanence et puis regarder en décalé, etc., bah, ça nuit à la notion de... À un moment donné, toutes ces expériences collectives, elles innervent la société et elles font qu'à un moment donné, bah, vous participez à un groupe d'hommes qui participent à la même expérience au même moment. Et ça, c'est très important au sein d'une société. Ça crée du lien et... À partir du moment où on casse ces liens-là, c'est compliqué de les reconstruire.
Mais j'ai l'impression que c'est une grande question, là, peut-être d'un passage d'une cinéphilie un peu classique à aujourd'hui des nouveaux rapports avec les nouveaux supports, la diffusion. Du coup, est-ce que toi, la cinéphilie, c'est quelque chose qui est arrivé assez tôt dans ta vie, dans ton expérience, ton rapport aux images ?
Alors, moi, j'ai commencé quand j'étais à peu près au lycée. Je ne sais pas si c'est tôt, mais c'est peut-être pas si tôt que ça. Mais par contre... J'avais un rapport un peu presque studieux à la cinéphilie, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris un livre sur le cinéma et puis je suis allé à la médiathèque toutes les deux semaines. Et puis j'ai commencé à la lettre A en me disant, bah tiens, voilà, Woody Allen, etc. Puis jusqu'à Kubrick, etc. Enfin, j'ai pas suivi un ordre alphabétique trop linéaire, mais je me suis construit comme ça, c'est-à-dire vraiment, je me suis dit, bon, ben, si tu veux t'intéresser au cinéma, la première chose, c'est de voir des films. Et en fait, c'est vrai.
Et de revenir aux grands auteurs et aux,
mais absolument,
aux références et à l'histoire du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut discuter avec des personnes, et pour eux, un film des années 90, c'est la préhistoire du cinéma, alors que le cinéma a 120 ans, et il y a énormément de films qu'on ne voit pas parce qu'ils sont... en noir et blanc, ou parce que l'image est trop à trop de grains. Donc il y a peut-être un rapport qu'on perd.
Absolument, et d'ailleurs je me souviens en étant étudiant d'avoir été parfois déçu justement d'étudiants que je rencontrais qui n'avaient jamais vu de film de Flaherty, qui ne savaient pas qui était Ziga Vertov, ou qui pour qui Jean-Luc Godard c'était juste la nouvelle vague et après c'était que de la merde. Je trouve ça très étonnant. Je veux dire, ça me paraît être le minimum quand on a envie de travailler dans le cinéma, de regarder des films. Et si on s'intéresse qu'aux films qu'il y a aujourd'hui, on ne comprend pas du tout ce qui s'est fait avant. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas pleinement comprendre ce qui s'est fait aujourd'hui sans avoir un minimum vu ce qui s'est fait avant. Ça ne me paraît pas possible. Ne serait-ce que parce qu'en fait, tous les gens qui font des films aujourd'hui sont influencés. Et en plus, je parlais tout à l'heure de langage commun. Quand vous rencontrez un metteur en scène... Bah oui, il faut pouvoir parler de Parajanov avec lui. C'est-à-dire que si lui, il vous parle d'un metteur en scène et que vous n'avez pas du tout vu, ça peut être un problème. Alors, on ne peut pas avoir tout vu, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le but. Mais à un moment donné, il y a des clés pour comprendre un réalisateur. Voilà, je parlais de Parajanov parce que, justement, quand j'ai rencontré Jean-Charles Hue, qui était mon premier long-métrage, il y a eu un entretien, comme un entretien d'embauche. Il a vu plusieurs chefs opérateurs. Et je me souviens qu'il a choisi de travailler avec moi parce qu'on a parlé de Parajanov ensemble et que lui, il est fan de Parajanov. Et il y avait ça et Jean Genet, par exemple. Donc, moi, je suis un fan de Jean Genet et lui aussi. Et il est fan de Parajanov et lui aussi. Et donc, du coup, ça nous donnait un langage visuel commun. Et en plus, moi, je conçois le tournage comme une vraie expérience de vie. Donc, du coup, pour partager une expérience de vie, ça suffit pas juste d'être un bon technicien d'image, d'être juste un bon faiseur, ça suffit pas. Il faut qu'est-ce qui se passe aussi humainement. En tout cas, moi, d'un point de vue personnel, j'attends d'un tournage une expérience humaine puissante. Et puis faire une image, c'est pas bien placer le projecteur au bon endroit et placer la caméra au bon endroit. Ça, il y a des tas de chefs opérateurs qui savent bien le faire, mais c'est pas ça faire une image. Et quelque part, je sais pas s'ils font des images. Ce que j'entends par faire une image, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. D'arriver à faire un plan, un beau plan, un plan où il se passe un peu un miracle, c'est très compliqué et il n'y a pas tant de films que ça qui y arrivent. Il n'y a pas tant de films que ça qui sortent, qui ont des vraies propositions plastiques, mais aussi presque plastiques et politiques et sensorielles fortes. Et en fait, c'est pas tant l'image en elle-même qui est intéressante, c'est ce qu'il y a derrière l'image. Et ce qu'il y a derrière l'image, pour y accéder, ça demande vraiment d'aller chercher des choses extrêmement profondes, intimes, pour y parvenir. Et du coup, ça demande un vrai travail avec les metteurs en scène très, très compliqué. Et donc, ça demande une cinéphilie, pour répondre à ta question.
Et aujourd'hui, comment est-ce que tu continues à, j'allais dire consommer, alors c'est un peu la façon justement aujourd'hui dans notre rapport aux images, on les consomme beaucoup. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu regardes du coup beaucoup de films? Est-ce que tu continues de regarder beaucoup de films anciens c'est-à-dire pas des films qui sont sortis dans les années précédentes? Ou est-ce que tu t'accroches aussi aux nouvelles formes d'images, que ce soit les séries qui sont abondantes, les clips ou même peut-être les jeux vidéo et...
Alors sur la cinéphilie, oui, moi j'essaie d'entretenir une cinéphilie assez variée. Donc tout ce qui peut être image, mais bon déjà dans la réalité, je vais toujours être attentif à la lumière, à comment elle se pose sur les corps, sur des objets. Parce que c'est ça qui va enrichir après mon rapport au tournage et comment je vais pouvoir proposer et inventer des choses. Mais je continue aussi de regarder des films parce qu'il y a toujours des films qui sont un peu des références. Donc je dirais que dans ce que je regarde, il y a deux choses. Il y a les films qui sont toujours un peu des bibles pour moi. Donc par exemple, Voyage au bout de l'enfer, j'ai vu des centaines de fois, mais je continue toujours de le regarder parce qu'en fait, je continue d'y puiser des idées. Et puis je me dis, ah tiens, mais comment il a fait... Comment ils ont fait Cimino et Zygmunt sur ce passage. Donc je regarde des plans, ou même je fais la même chose avec La Prisonnière du désert ou chez Cassavetes, enfin chez voilà, ou Le Parrain de Coppola. Enfin voilà, je vais avoir, je sais pas, 10 ou 15 films comme ça qui sont importants pour moi et que je revois encore et encore et encore avec toujours autant de plaisir pour essayer de comprendre comment ils ont fait vraiment d'un point de vue pratique. Et donc ça, c'est une première chose. Et après, je continue d'aller voir des nouveaux films parce que je suis toujours curieux quand même de ce que font d'autres opérateurs. Moi, je trouve que ce qui se passe en ce moment en Russie avec Faute d'amour de Zviagintsev et son chef opérateur, je trouve ça incroyable, par exemple. Je trouve ça très...
Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film?
Ben tout. Je trouve que le film est très beau. Je trouve que c'est vraiment un très beau film d'un point de vue sonore, musical. Je trouve que l'histoire est très belle, très simple. Et en même temps, je trouve ça brillant, quoi. Je trouve que les plans sont vraiment je trouve que c'est vraiment des mises en scène brillantes, avec des plans séquences quand même assez incroyables. Et en même temps, c'est jamais trop tape à l'œil, contrairement à son film d'avant où j'avais trouvé que ça se montrait un peu plus. Et je trouve que plastiquement, c'est une vraie réussite parce qu'il y a un travail sur le gris qui est assez inédit. Donc je trouve que c'est un film absolument réussi de A à Z, et je trouve que c'est, enfin, je trouve ça très puissant à partir de l'histoire d'une femme dont l'enfant disparaît, d'arriver à faire le portrait de la Russie contemporaine. Je trouve que c'est juste une ambition démente, quoi. Et je trouve qu'il le fait très très bien. Donc je vais avoir ce genre de personnes qui m'intéressent beaucoup. Mais j'ai été très surpris par un film aussi, et je m'y attendais pas du tout, qui s'appelle The Strangers. un film de Nam June In, qui est un film coréen un peu horrifique. Alors c'est pas du tout mon style, mais en fait je trouve le film, mais je trouve aussi que c'est un chef-d'œuvre absolu, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois un film d'horreur, à la fois un documentaire, à la fois un film assez politique, et ça, je trouve que c'est prodigieux. Mais après, quand on regarde comment il a été fabriqué, bah, le film, il est très bien produit. Il y a 16 semaines de tournage, il y a du tournage pendant le montage, et son opérateur, il est brillantissime. Je trouve que c'est très très beau ce qu'il a réussi à faire. Et donc ça me donne des idées, ça me donne plein d'idées, enfin ça me donne plein de désirs et plein d'idées. De voir que d'autres ont su et pu faire ça, ça, voilà, ça donne du désir. Donc la cinéphilie, elle est à la fois dans l'ancien pour les références et dans le nouveau pour continuer de voir qu'il y a des choses bien qui se font. Et puis j'essaie aussi de voir des films français, parce que contrairement à ce qu'on peut entendre régulièrement, je trouve qu'il y a des très bons films français qui continuent de se faire. Alors c'est pas toujours les films les plus présentés ou les plus faciles d'accès, parce que parfois ils disparaissent vite de l'affiche. Mais je trouve qu'en France on continue à avoir des films intéressants, malgré les modes de production pas toujours évidents. Les films ont peut-être pas assez d'argent, il y a peut-être trop de films. Parce que par rapport à la facilité de fabriquer des films, la profusion d'images, la facilité aujourd'hui de tourner, bah, du coup il y a beaucoup de films qui sortent. Et ça, je trouve ça complexe. Parce que du coup il y a trop d'images en permanence, on est noyé, quoi.
Du coup, est-ce que quand on est chef opérateur, on se pose la question de est-ce que mon film va être vu? Est-ce qu'il va avoir quelque part un impact aussi sur... Je pense que quand on parle de public, il y a déjà le public des gens qui ont fait le film et dans le cas d'un documentaire, les gens qui ont tourné dans ce documentaire. Et puis après, c'est pas l'histoire d'avoir un public plus large que les cinéphiles parisiens ou les étudiants en cinéma ou ceux qui vont dans les festivals. Comment est-ce qu'on réfléchit à ces questions quand on est chef opérateur aujourd'hui? Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est une question secondaire qu'on se pose pas parce qu'on est plus dans la production?
Bah, moi, d'un point de vue personnel, je trouve que c'est une question importante. Je considère que faire un film populaire, c'est le minimum d'ambition à avoir, dans le sens où il faut que les films soient vus. Mais faire un film pour qu'il soit vu, ça ne veut pas dire faire des concessions. Ça veut dire au contraire trouver le moyen de proposer quelque chose d'original, tout en étant suffisamment séduisant pour donner du désir, pour provoquer du désir auprès des spectateurs, et ce, le plus largement possible. Après, il ne faut pas être naïf. Aujourd'hui, certains films, que ce soit français ou américain, ont une telle puissance de feu d'un point de vue commercial que c'est difficile d'exister, quoi. Même avec toute l'originalité et toute la qualité qu'on peut mettre, c'est compliqué quand... Quand vous avez 20 copies ou 50 copies et qu'en face il y en a 850 et que les 850 copies elles restent pendant 3 mois et que vous restez pendant 2 semaines, voilà, c'est compliqué d'obtenir un impact fort. Maintenant, Mange tes morts, il a fait, je crois, 50 000 entrées à sa sortie, mais je sais qu'il a beaucoup, beaucoup tourné après en DVD et en streaming, etc. Et beaucoup de gens m'en parlent quand je les rencontre et donc. Et donc le film, il a existé. Alors il n'a peut-être pas existé de la manière dont on aurait voulu, puis ça, c'est dommage qu'il n'ait pas plus marché en salle, parce que ça aurait été plus facile de produire le film d'après pour le réalisateur, etc., etc. Mais les films, ils existent. Et je pense qu'ils existent et ils continueront d'exister parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont originaux, parce qu'ils sont... voilà, et c'est la même chose dans la série. Pourquoi The Wire, ça résiste autant, et pourquoi, en fait, il y en a la plupart, elles vont être complètement mais oubliées. Ça porte bien son nom, le streaming, c'est le stream, quoi. Tout est déjà emporté. Donc la plupart des séries qui sortent,
c'est un flux qu'on va pas garder, alors que l'idée de la cinéphilie, c'est aussi avoir un patrimoine dans lequel on va chercher des inspirations, des références, et qui reste parce que les images nous marquent, et il y a un personnage, une lumière, un cadre, des fois un montage ou un acteur, une histoire qui vont nous marquer.
Bah oui, du coup je pense que ça impose d'être plus vigilant qu'auparavant, ça c'est vrai. C'est-à-dire que comme il y a plus de production, il n'a jamais été autant important, je pense, de faire appel à des gens dont c'est le métier. Donc ça peut être des journalistes critiques, ça peut être voilà, des sélectionneurs de festivals. Ça a jamais été, je pense que ce métier n'a jamais été aussi important, dans la mesure où il y a tellement qui est produit que eux, dans leur devoir de sélection, ça devient encore plus important. Et du coup, je trouve que il faut remettre ces sélectionneurs vraiment au centre de les sélectionneurs et les exploitants, il faut les remettre au centre du jeu, ou enfin peut-être pas au centre, mais en tout cas enfin si, il faut les remettre, en tout cas il faut leur redonner une place très importante, parce que eux, vont faire un travail que nous, en tant que spectateurs, on n'a pas le temps de faire. Et après, il faut faire un tout petit peu confiance au travail du temps, parce que, tu vois, The Wire, bah, moi, je ne l'ai pas vu à sa sortie, mais en fait, petit à petit, via le bouche à oreille, en fait, bah, en fait les sorties, elles reprennent de la puissance. Et bon, je veux dire, il y a... Si on prend l'époque romaine et latine, il y avait une profusion de textes énormes, et aujourd'hui, ne nous en reste que pas grand-chose, mais ce qui reste, on considère que ça fait partie comme des choses importantes. Donc il faut se dire que le travail du temps va aussi sélectionner quelque part, alors peut-être pas que les meilleurs, mais en tout cas va sélectionner une partie des meilleurs, et malgré tout va surnager des choses... justement sur le flux surnage des choses qui sont importantes et auxquelles il faut prêter attention. Il y a peut-être des auteurs qui seront perdus mais qui renaîtront plus tard, enfin voilà, ça fait aussi partie des, je veux dire, beaucoup d'auteurs de musique classique ont pas du tout connu de gloire de leur vivant du tout. Mozart est mort très jeune, misérable, donc je veux dire c'est un peu une fatalité ce que je dis, mais oui, de fait, bah oui, les auteurs et les réalisateurs surtout ont un métier compliqué. Oui, c'est pas sûr qu'ils seront vus et reconnus. Donc c'est dommage de pas être vu et reconnu de son vivant. Faut pas se méprendre. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment que les sélectionneurs de festivals trouvent leur public et trouvent une sélection exigeante et originale.
Il y a une autre question que j'aimerais poser, c'est c'est le fait qu'on perd sans mal un peu le quotidien de l'activité du chef opérateur, et notamment le fait qu'il y a un statut d'intermittent du spectacle pour protéger les métiers du cinéma. Du coup, c'est une question très pratique, économique. Qu'est-ce que tu penses de ce statut, de cette précarité? Est-ce que c'est un des grands sujets de notre génération, même parmi les plus diplômés, d'arriver à entrer sur le marché du travail? Alors toi, t'as eu quelque part de la chance en étant chef opérateur très vite sur des films et en enchaînant les projets. Mais est-ce que c'est quand même, toi aussi, une question qui te touche, une question politique et sociale ?
Bah oui, ça me touche. Et je me sens impliqué d'un point de vue politique et social dans ces questions-là. Moi, je pense que le statut intermittent, il est très, très important. Je pense qu'il permet à pas mal de... Si je prends juste le métier de directeur de la photographie... je pense qu'il permet à beaucoup de directeurs de la photographie, lorsqu'ils se lancent dans ce métier-là, au début, de survivre, tout simplement. Moi, les deux premières années, alors deux ans, c'est rapide hein, quand même. Mais enfin, j'étais quand même content d'avoir ce statut-là, parce que ça m'a permis de faire des courts-métrages, ça m'a permis de faire des documentaires, et puis aussi dans les périodes non travaillées, parce qu'il y en a de quand même surnager. Et puis moi, je fais beaucoup de films d'auteurs, donc qui sont souvent financés en dessous de 3 millions. Donc c'est-à-dire, d'un point de vue technique, c'est-à-dire annexe 3. Donc mon salaire est quand même pas mal réduit. Et du coup, bah, je considère que du coup, c'est normal que j'ai accès à l'intermittence, puisqu'en fait, pour faire ces films-là, je sacrifie une partie de mon salaire. Donc je considère que c'est important de maintenir ce statut-là. Je pense aussi qu'il y a beaucoup... En fait, le tournage, c'est extrêmement intense, avec des horaires très compliqués. Du coup, c'est compliqué d'avoir une vie personnelle à côté. Donc, c'est des journées qui peuvent monter à 14-15 heures par jour. Donc, vous avez juste le temps de dormir à côté. Et du coup, c'est légitime, à côté de ces très grandes périodes, d'avoir des périodes non travaillées qui, en fait, compensent un petit peu le fait que vous ayez zéro... temps à vous, enfin en tout cas en tant qu'opérateur, c'est y compris le samedi, y compris le dimanche, donc il y a des moments où d'un point de vue personnel c'est très lourd. Du coup, quand vous avez du temps libre à côté, c'est normal quelque part qu'il y ait une indemnité par rapport à ça. Et puis en plus, de toute façon, je la cotise, cette indemnité, donc je veux dire, mon employeur il paye une cotisation, donc cette cotisation entre guillemets elle m'appartient, c'est pas un c'est pas un don de l'État par rapport à nous, c'est une cotisation des employeurs pour payer ce statut-là. Donc c'est comme les retraites, hein. Les retraites, c'est pas les autres qui payent pour vous, c'est vous qui avez cotisé pendant des années et votre employeur, et donc c'est légitime que vous ayez une retraite. Donc le système intermittent, je le considère comme légitime.
Et il permet d'avoir aussi un cinéma différent, plus marginal en termes de choix esthétique et de diffusion.
Ah ben tout à fait, je pense que si aujourd'hui on a un cinéma qui fait 250 films par an, avec des cinémas originaux que le monde entier nous envie, s'il nous permet de financer aussi des films qui sont pas uniquement français, mais aussi coréens, taïwanais, africains, on finance aussi beaucoup, beaucoup de films qui sont pas complètement produits en France, mais qui sont issus de coproductions. Voilà, ça peut être coproduction burkinabé française ou Côte d'Ivoire française ou italo-française ou roumaine française. Et tous ces films-là, sans le statut intermittent, seraient forcément affectés puisque, en fait, des techniciens, beaucoup de techniciens, acceptent aussi de travailler dans des conditions financières moins intéressantes parce que le projet les intéresse et parce qu'il y a le statut intermittent derrière. Sans le statut intermittent, ces gens-là qui sont... Parce que ces films-là demandent aussi des gens compétents, qui ont tout autant de compétences que sur des films où il y a plus de budget. Et ces gens-là, s'ils n'étaient pas protégés par le statut intermittent, ne viendraient pas sur ces films-là. Et donc on perdrait ces films-là, ils ne se feraient plus. Ou alors il n'y en aurait plus qu'une infime partie qui pourrait se faire dans des conditions quand même très difficiles. Donc je ne suis pas du tout pour la précarisation supplémentaire, puisqu'en fait on est déjà dans une forme de précarité grande qui dure en plus tout au long de la carrière. C'est-à-dire que moi je connais des opérateurs qui ont connu des chutes assez vertigineuses quand même à 40 ans, à 50 ans, à des périodes où en fait on pense qu'on est peut-être davantage protégé du fait de l'expérience et pas du tout. En fait, tout à coup, du jour au lendemain, ben, peut-être pas du jour au lendemain, mais enfin quasi, ils se retrouvent avec tout à coup moins de travail, moins de propositions. Et je pense que c'est difficile du coup si vous n'avez pas un tout petit peu de protection sociale derrière. Donc je ne suis pas pour le démantèlement de toute façon des protections sociales, ça c'est clair.
J'aimerais continuer sur la question esthétique. En parlant du numérique, aujourd'hui, il y a une recherche, je trouve, d'une image parfaite avec le numérique, avec une image de plus en plus nette, définie, lisse, sans grain, avec des couleurs très proches de la réalité. Ça vaut aussi pour les mouvements de caméra qui sont toujours plus nombreux, plus fluides, en effaçant le corps du cadreur. Justement, dans tes films, j'ai l'impression que tu vas à l'encontre et que tu détournes le numérique pour créer des images un peu imparfaites et peut-être même sales au sens où elles vont pas... Elles vont pas flatter l'œil forcément de la même façon que dans beaucoup de films. Comment est-ce que tu utilises le numérique et quelle est ta pratique, notamment face aux évolutions techniques qui sont toujours plus nombreuses?
C'est vrai que moi j'aime bien travailler une image qui soit le plus organique possible, qui soit à la fois qui puisse paraître naturelle mais qui ne l'est pas du tout. Donc tout ça, j'ai l'impression que ça doit toujours passer par une torsion de ce que tu appelles parfait. En tout cas, c'est sûr que le numérique propose une image assez différente de celle des films auparavant qui avaient pu être tournés en pellicule. Et du coup, je trouve que l'image numérique est plus proche de la pensée et du coup de la poésie et de l'imaginaire lorsqu'elle est plus détruite, plus détériorée, plus pauvre. Je trouve que les images... alors je trouve qu'il y a quelques opérateurs qui s'en sortent bien et qui arrivent à faire des images digitales précises, nettes et cliniques et qui sont intéressantes. Mais je pense que le digital est... Mais en fait, c'est pas tant les caméras que je pense la post-production digitale qui amène à une forme de planéité de l'image et qui lisse quelque part les défauts, les accros, les variations. Et c'est vrai que moi, dans mon travail, et notamment en post-production, je vais davantage chercher des raccords entre les scènes ou entre les plans qui soient poétiques avant de chercher un rapport et un raccord. Donc le raccord, c'est la liaison entre deux plans, qui soit davantage sur une bascule poétique ou sensorielle, plus que sur... parce qu'en fait, le numérique nous permet... tout à fait, de raccorder deux plans et que ce soit parfaitement homogène. Mais en fait, cette homogénéité, elle n'est pas cohérente, je trouve, par rapport à ce qu'on ressent d'un point de vue physiologique. Et donc, moi, j'essaie de faire, dans mon travail, un rapport beaucoup plus physiologique et sensoriel et humain, du coup, je crois, plus que ce côté extrêmement presque informatique et parfait du digital. Donc, alors après, je trouve qu'il y a certains films qui peuvent totalement travailler cette question-là. Moi, je trouve que c'est un rapport intéressant, le côté très homogène, très lisse, très clinique. Ça peut être vraiment
intéressant. Faute d'amour dont on parlait tout à l'heure et a quand même un aspect très lisse qui est.
Oui, c'est vrai, c'est assez froid, assez lisse, mais je trouve que
correspond
dans
bien à l'esthétique, une forme d'utilisation de cette esthétique.
Oui, c'est un super exemple. Et d'ailleurs, même les mouvements de caméra sont ultra. Tout à fait. Là, c'est assez réussi parce que c'est à la fois c'est très glacé et ça paraît très parfait tout le temps. Et en même temps, on a le sentiment d'une espèce d'humanité qui serait cachée dessous, mais qui est un peu ce que traduisent les personnages qui sont donc sous l'emprise d'une dictature, qui peuvent pas vraiment montrer exactement leurs sentiments, qui peuvent pas vraiment dire ce qu'ils pensent complètement. Et du coup, je trouve que là, pour le coup, le côté plaqué, glacé. Et comme un film plastique qu'on mettrait par-dessus et qui est exactement ce que peut être une dictature.
Ça correspond donc aux propos politiques et esthétiques du film. Donc
exactement.
On voit que le numérique peut être utilisé aussi pour. Il peut être parfait, mais il faut qu'il corresponde aussi à l'histoire du film et à ce qu'il raconte.
Oui, tout à fait. Du coup, je trouve que c'est une utilisation vraiment. Oui, c'est vraiment un très très bon exemple d'une utilisation d'une forme de perfection que je trouve hyper aboutie. Mais d'ailleurs, elle y est même dans la musique. Enfin, c'est cohérent par rapport à l'ensemble du film. Mais c'est vrai que pour l'instant, moi, j'ai plutôt été en contact avec des metteurs en scène dont le rapport était assez charnel. Donc c'est vrai que j'ai cherché des images assez granuleuses, assez...
Justement, sur le grain, dans Sherazade, tu utilises une caméra qui est l'Alexa Mini, du fabricant de caméras Arri, qui est aujourd'hui leader du marché et qui... Enfin, vraiment, quand on regarde les sélections de festivals, que ce soit Sundance en Amérique ou même le Festival de Cannes, la majorité des films sont tournés avec les caméras de cette gamme. Mais toi, tu as réussi à créer une image. Quand on regarde le film pour la première fois, moi, je l'ai vu sur un grand écran d'être 20-30 mètres. On voit beaucoup de grains, on voit beaucoup de défauts optiques. Comment est-ce que tu peux travailler avec ces caméras pour les détourner de leur codage, même en termes d'informatique, puisque c'est plus de la pellicule photochimique avec des réactions, c'est vraiment du codage informatique. Comment est-ce que toi, tu travailles au tournage et à la post-production pour transformer cette image et la faire coller à ce que tu recherches en termes de sens et d'histoire?
Vaste question. D'abord, la première chose, c'est d'un point de vue théorique, c'est de toujours être en recherche, parce qu'en fait, c'est jamais quelque chose qui est gagné d'avance, d'être sur un rapport comme ça, sur une matière assez molle, et du coup, d'arriver quand même à travailler les textures. Donc, c'est effectivement un travail en amont, pendant et après. Donc, c'est vrai que moi, j'essaye de pas avoir de recettes appliquées. Donc, je change régulièrement de partenaire technique. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas toujours le même chef électro sur chaque film. J'ai pas toujours le même pointeur, enfin, le même assistant caméra. Je change d'équipe presque sur tous les films. J'ai des gens qui reviennent avec moi, mais donc j'ai quand même fidélisé certaines personnes en tant qu'équipier. Mais ça m'arrive régulièrement de changer. Donc, là, au Mexique, pour le film de Jean Charlus, j'avais que des Mexicains. Et une française, mais que je ne connaissais pas. Enfin voilà, ça me permet toujours de rebasculer et de remettre en doute ce que je pensais faire, mais qui en fait était peut-être pas exactement la bonne solution. Donc, ça, c'est une première chose. Après, par contre, d'un point de vue post-production, je travaille presque toujours avec Yov, qui est un étalonneur, et sur lequel justement on a petit à petit développé comme ça des process de travail. Et en même temps, lui aussi, c'est quelqu'un qui se remet toujours en question. Donc, on va toujours chercher les nouveaux softwares. On essaye de les détourner.
Parce que l'étalonneur, c'est vraiment la personne qui va transformer l'image de la caméra en ce que le spectateur va voir.
Exactement.
Théoriquement, au moins sur son écran ou sur un écran de référence. Donc, il y a un travail sur les couleurs, notamment.
Couleurs, contraste, texture, les trois. Après, il y a tout ce qui a été fait à la prise de vue. N'est pas complètement transformable. Moi, j'essaye de prendre beaucoup de risques à la prise de vue, par exemple, pour proposer une image originale, justement. Donc, en fait, je prends beaucoup de risques et du coup, ça fait qu'il n'y a pas toujours une marge de manœuvre totale en étalonnage. Mais c'est ce qui fait que ça donne aussi quelque chose qui soit original. Donc, je me laisse pas totalement toute latitude possible. Et j'aime bien tordre l'image et l'amener dans des retranchements différents. Donc, par exemple, sur Scheherazade, il y a des scènes entières qui sont filtrées en couleur, qui font que la couleur est totalement appauvrie. Par exemple, si vous mettez un filtre orange ou un filtre bleu.
À l'étalonnage ou
non, non, à la prise de
à
vue.
La prise de vue. On met un filtre devant la.
Par exemple,
devant l'objectif.
Par exemple, il y a des scènes qui sont. Il y a pas mal de scènes dans Scheherazade qui sont tournées au début comme ça, donc des filtres chauds qui font que l'image est très chaude, mais je les ai refroidis ensuite en post-production. Je les ai renaturalisés, si vous voulez, en post-prod. Mais en fait, qu'est-ce que ça fait? Bah, par exemple, si vous filtrez en orange, forcément, votre gamme chromatique bleue, elle est beaucoup plus réduite. Et même votre gamme orange, elle est plus réduite parce qu'en fait, vous avez un filtre de couleur. Donc, en fait, toutes les couleurs, elles passent à travers ce filtre. Et donc, elles sont, si vous voulez, votre palette est beaucoup plus faible.
Bah,
si vous avez shooté
normalement...
sans ça, votre palette, elle est celle du capteur. Et donc, du coup, la palette, elle est très grande. Il y a un côté très réaliste et on a le sentiment que toutes les couleurs sont assez bien respectées. Mais en fait, bah là, la palette, elle est réduite et donc l'image, elle est entre guillemets appauvrie. Mais cet appauvrissement, il va vers une forme de poésie ou vers le fait qu'il y ait moins de choses, moins de possibilités. Pour ça, j'aime bien travailler avec Yoff, c'est que lui, il part pas. Donc, il regarde ce qu'on a fait à la prise de vue. Et parfois, on fait le choix de le garder, et parfois, on fait le choix de l'atténuer, et parfois, on fait le choix de le renforcer. Il n'y a pas non plus de recette. Donc, on remet toujours en doute tout ce qui a été fait, et on n'applique jamais deux fois le même process. J'ai jamais fait deux films de la même manière, ni au tournage, ni au résultat. Donc là, par exemple, j'ai retourné en Alexa Mini cet été au Mexique, mais par exemple, là, j'ai tourné en RED sur le dernier film que je viens de faire. Et le dernier film que je viens de faire, j'ai pas du tout utilisé de filtre coloré, j'ai travaillé de manière plus directe, mais en utilisant d'autres process pour quand même garder une texture, et sur le film d'avant aussi. Donc en fait, à chaque film, un process différent pour obtenir une image différente. Mais je sais pas exactement à chaque fois ce que je cherche. C'est-à-dire que je me dis pas... je sais que par exemple, sur Scheherazade, je voulais travailler... je voulais aller le plus proche de quelque chose qui me rappellerait un peu du 16 ou Kids de Larry Clark. Bon, sans chercher à copier parce que ça m'intéresse pas, puis de toute façon c'était une autre époque. Mais c'est vrai qu'à la prise de vue par exemple, on a beaucoup texturé, j'ai beaucoup sous-exposé, j'ai beaucoup utilisé de filtres de couleurs. Et à la post-production, on a travaillé pas du tout dans ce sens-là, puisqu'on a quand même resaturé beaucoup les couleurs, on a été chercher quand même quelque chose de beaucoup plus vif, pour pas rester dans une image qui serait trop une image un peu déjà vue justement, un peu type, enfin comment dire. Aujourd'hui, on utilise beaucoup ce qu'on appelle des luttes, qui seraient des luttes qui rappelleraient le 35 mm. Ben, on n'a pas du tout utilisé ce processus-là pour obtenir, au contraire,
des luttes,
une
en fait,
image...
ce sont des sortes de dictionnaires qui transcrivent des...
Oui,
des...
c'est l'application. C'est comme l'utilisation d'un positif en... C'est une interprétation des couleurs et du contraste. Voilà. Donc, c'est une courbe contraste-couleur qui s'applique aux images et qui donne une base, si vous voulez, à votre langage coloré... Et donc, certaines ont des principes qui rappellent un peu le 35 mm ou pas. Et donc, nous, on est allé vers justement des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus vives, beaucoup plus saturées. Des choses qu'en 35, il aurait été compliqué d'avoir, mais qui, pour moi, donnaient un truc beaucoup plus contemporain à l'image. Parce que j'ai pas une nostalgie. Je trouve que le 35, c'est magnifique. Et d'ailleurs, il y a encore des films qui se font en 35 et je suis très content. Mais j'opposerai pas les deux, c'est pas les mêmes outils et c'est pas les mêmes résultats. On peut avoir une image très clinique aujourd'hui en 35 si je
prends... Parce que les pellicules ont aussi évolué et aussi
tout à fait.
Si vous prenez plus proche du numérique et
tout à fait,
en envoie grain, etc.
Un des derniers films de Tim Burton, mais dont j'ai oublié le nom parce que j'ai trouvé très mauvais, et il a été tourné en 35 et ça se voit pas du tout. Donc je trouve ça pas forcément intéressant si ça se sent pas que les couleurs sont vraiment celles de la pellicule. Autant tourner en numérique parce que c'est assez clinique. Et au contraire, il y a des films qui sont tournés en numérique où je me dis, ouais, ça c'est super intéressant, comment ils ont fait. Donc aujourd'hui, s'il y a plus de porosité, et ça c'est une bonne nouvelle.
Alors pour conclure, j'aimerais citer la fin de ton mémoire qui était sur Filmer l'intime. Dans ta conclusion, tu fais une sorte de manifeste pour une forme de nouveau cinéma et tu définis en fait, je trouve, ta pratique. Et je trouve que ça se retrouve dans notre discussion. Et notamment à la fin, tu dis filmer l'intime, c'est un engagement. S'engager à faire du cinéma, c'est pas seulement un outil, mais une création qui peut faire partie de la vie et ceux qui n'y pensent même pas. Et pour cela, il faut accepter de changer les règles, de changer les équipes, de changer les formes du cinéma, rester à l'écoute de ce qui se passe, réel ou fiction, pour venir transcender le cinéma et ceux qui le font. Est-ce que tu crois toujours en ce que tu as écrit 5 ans après? Et est-ce que tu penses que les choses ont déjà changé à travers ton engagement en tant que chef opérateur et peut-être ce que tu vas faire à l'avenir?
Ah non, je me rappelais plus que j'avais écrit ça, mais je trouve ça, je suis assez content de l'entendre. Non, non, je trouve ça assez, bah, je trouve ça assez juste par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que je crois toujours que c'est important de changer les équipes. Je pense que c'est important de toujours être en doute par rapport à sa propre pratique, de pas essayer de refaire deux fois la même chose. Je pense que la question du réel est primordiale, enfin dans le sens de ce que j'entends par réel, c'est que moi la plupart des plus belles idées que j'ai pu avoir en lumière ou au cadre, en général, je les ai vues quelque part un jour dans la réalité, parce que c'est toujours là que les choses les plus étonnantes et les plus incroyables arrivent, ça dépasse toujours la fiction, toujours. Donc la plupart du temps, les plus belles idées d'image, je les ai eues parce que j'ai vu quelque chose qui m'a touché à un endroit. Et donc ça continue d'être ma pratique, c'est-à-dire être attentif à ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs en tournage, je finis toujours par enregistrer des choses hors du clap, sur des visages, sur un comédien qui attend quelque chose, qui attend quelque chose. Et du coup, hop, j'enregistre. Parce qu'en fait, parfois, il se passe des choses incroyables sur un visage et que c'est des choses compliquées à remettre en scène. Donc, je suis toujours prêt à tourner, quoi qu'il arrive. Et en documentaire, c'est toujours pareil. Si je peux attraper un rayon de lumière, si je peux faire que tout à coup, il y a une petite magie qui s'opère, ben, je suis attentif à ça. Et je trouve ça toujours super émouvant quand je rentre le soir chez moi et que je me dis, waouh, ouais, ça, c'était quelque chose que était assez incroyable. Que ce soit du point de vue des comédiens ou de la lumière ou surtout de la rencontre entre les deux.
Jonathan Aigbourg, merci beaucoup d'avoir inauguré ce premier épisode de
Ah,
Négatif.
merci à toi.
Négatif, c'est aussi un site internet avec des articles qui complètent le podcast, filmographie de l'invité, lien vers son travail ou texte pour approfondir la thématique de l'épisode. Vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux ainsi que sur iTunes pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!